Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Emmanuel Dancourt et Jérôme Lavrieux. On va démarrer avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Faut-il éteindre la Tour Eiffel pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Moscou? Après le terrible attentat survenu dans une salle de concert vendredi à Moscou, la mairie de Paris pourrait décider d'une extinction de la Tour Eiffel afin de rendre hommage aux victimes. Une décision qui ne choquerait pas le prof de philo, Jean-Loup Bonamy.
Ça me paraît normal, à partir, ça serait quand même hallucinant, non seulement vis-à-vis des morts et des victimes, mais en plus où nous avons connu les mêmes expériences et nous sommes confrontés aux mêmes dangers, aux mêmes menaces, où ça s'est produit hier avec le Bataclan, ça peut se reproduire demain, ça serait quand même un peu aberrant de ne rien faire.
Thierry Moreau, est-ce qu'il faut éteindre la Tour Eiffel en hommage aux victimes des attentats de Moscou?
Sur ce que dit le chroniqueur des juges, je suis assez d'accord en fait, si effectivement, mais c'est sur le principe d'éteindre la Tour Eiffel. Moi, je trouve qu'on l'éteint et qu'on l'allume et qu'on la met à des couleurs un peu à toutes les sauces et un peu très souvent. Je pense que ça doit rester quelque chose d'assez exceptionnel et ça devient quelque chose de très très récurrent. Alors c'est pour rendre hommage à un pays, c'est pour tel attentat, tel. Je trouve qu'on le fait un peu souvent et qu'on sort de l'exceptionnel. Mais sur le principe, effectivement, c'est le peuple russe qui a été victime.
Bien sûr.
Voilà, on est aujourd'hui en co-belligérance quasiment avec le régime de Vladimir Poutine, mais avec le peuple russe, évidemment, on n'est pas en guerre. Donc, effectivement, ce sont des victimes russes, il y a eu 3 enfants. Enfin, donc, effectivement, ça, sur le principe, ça ne me choque pas. Mais je trouve qu'on le fait trop souvent.
On doit le faire, Jérôme Lavrieux?
C'est d'autant plus parce que, comme tu le dis, on est quasiment en co-belligérance contre les Russes en soutenant les Ukrainiens. C'est d'autant plus pour cette raison qu'on doit le faire, pour montrer qu'en fait, nous, on n'est pas en guerre contre le peuple russe.
Le régime et la
population. On n'est pas en guerre contre les Russes. On est en guerre contre un régime dictatorial qui est expansionniste et impérialiste. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire. Et puis c'est pas, je partage pas tout à fait ce que tu dis quand tu dis on le fait à tort et à travers.
Ah non, mais à partir de quand tu le fais, c'est la question que j'avais posée à Emma. Mais
justement, c'est le plus gros attentat en termes d'attentat meurtrier en Europe qui a eu lieu. C'est plus qu'au Bataclan.
Oui.
C'est plus qu'au Bataclan, donc on n'est pas sur.
D'accord, mais si ça avait été le troisième, on l'aurait pas fait. Enfin,
aucune loi n'oblige à le faire. Si on a pris l'habitude de le faire quand il y a un attentat majeur sur la planète, il faut le faire. Je suis plus réservé s'il s'agissait de mettre la Tour Eiffel aux couleurs russes. Du drapeau russe.
Vu que c'est nos couleurs, ça ne serait pas gênant.
Oui, ça dépend dans quel sens on les met quand même. Mais pas parce que là, ça manifesterait le soutien à un État. Là, on soutient le peuple russe et on est en compassion avec eux.
Moi, je trouve ça très bien qu'il n'y ait pas justement de loi qui décide de quoi, quelle gradation.
Non, mais qui décide
qui décide? Ça, c'est une bonne question.
C'est la maire de Paris.
La maire de Paris. Le propriétaire, c'est la mairie de Paris.
Ouais. Mais je trouve ça super d'utiliser ce monument, aussi bien dans les moments de joie que dans les moments de deuil. Moi, je ne suis pas non plus d'accord avec toi, Thierry. Je ne trouve pas qu'on la surutilise. Mais là, je crois que ça fait l'unanimité sur le plateau. Évidemment qu'on éteint la Tour Eiffel. Mais on ne met pas aux couleurs russes. Je suis d'accord avec Jérôme.
Les GG ce matin sur RMC. Le gouvernement protège-t-il suffisamment l'agriculture française alors que nos agriculteurs dénoncent depuis des années la concurrence déloyale des produits venant de pays n'ayant pas les mêmes normes sanitaires et environnementales? Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, invité des GG, se dédouanait sur l'Europe.
Et si vous me permettez, c'est plus la naïveté européenne que la naïveté française. Nous voulons des clauses miroirs. Nous voulons que les règles environnementales qui s'appliquent à nos producteurs, éleveurs, producteurs de volailles, producteurs de bovins, s'appliquent à tous ceux.
Vous le voulez?
Dont on a... Non, c'est ce que nous voulons.
Oui, regardez, c'est ce que vous voulez, mais quel résultat?
Qui a proposé qu'on restreigne les importations de volailles ukrainiennes? C'est le président de la République le premier qui s'est exprimé sur le sujet. Qui refuse aujourd'hui de signer le Mercosur? Un seul État, la France. Pourquoi est-ce que nous refusons? Parce que la production de bovins en Amérique du Sud n'obéit pas aux mêmes règles sanitaires et environnementales que la production de bovins en France.
Mais on peut l'imposer, on a encore une voix qui porte.
Écoutez, pour l'instant c'est bloqué, je constate que le seul pays qui a réussi à le bloquer, c'est la France.
Jusqu'aux européennes?
Non, je souhaite que tant que les normes ne seront pas équilibrées, la signature de l'accord soit bloquée. Donc, c'est une question de justice.
Bon, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Jérôme Lavrieux, vous étiez député européen au moment de l'accord du CETA, justement.
Le CETA qui est l'accord libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Tout ce que dit factuellement Bruno Le Maire, c'est vrai. Mm-hmm. Sur le traité avec l'Amérique du Sud, pour l'instant, il n'y a pas de normes miroir. Et donc c'est pour ça que.
Normes miroir, c'est.
On leur impose,
chacun fait, voilà.
S'ils veulent exporter chez nous, c'est-à-dire nous importer leur viande, leur poulet, tout ce que veut, faut que ce soit produit dans les mêmes conditions sanitaires, de santé publique, et de respect de l'animal aussi, que ce que l'on fait au sein de l'Union européenne. C'est une bonne raison de le refuser. Mais là où ça devient incompréhensible, c'est quand on a signé un accord, par exemple, avec le Canada, le CETA, qui a été signé il y a de nombreuses années maintenant, qui est d'ailleurs en fonction, qui a montré, c'est l'accord qui respecte les clauses miroirs. Et malgré cela, vous avez des députés, enfin pas des députés, des sénateurs, qui vont faire un petit coup politique jeudi, en fin d'après-midi, ont décidé de le refuser. Donc on dit tout et n'importe quoi. Je vous rappelle que pour importer de la viande bovine du Canada dans l'Union européenne, il faut respecter les mêmes normes, ce qui interdirait aux agriculteurs canadiens d'exporter cette viande-là bonne pour nous aux États-Unis. Donc ils ont c'est 60 tonnes de viande par an. Oui. Qu'ils arrivent à nous importer. En revanche, quand vous allez au Canada, ce qui n'était pas le cas avant, vous pouvez acheter du fromage français, vous avez du vin français, c'est pas anecdotique, hein.
Bien sûr.
C'est dans la balance commerciale, c'est à peu près les seules choses qui sont excédentaires. Ça nous a permis de racheter l'entreprise Bombardier qui fabriquait des avions qui concurrençaient Airbus, de les racheter, de les intégrer. Ça a permis à Alstom d'une autre branche de Bombardier avec les trains, etc. Si on n'a pas ça, enfin, on est excédentaire largement et on a des petits mecs pour faire un petit coup politique dans un hémicycle parsemé. Ah ben nous, on est contre. Les mêmes qui l'ont négocié, parce que ça avait été négocié sous Nicolas Sarkozy. D'accord. On marche sur la tête.
Il n'y a pas que le CETA, il y a aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de l'Europe.
Bah oui, avec l'Ukraine.
Avec l'Ukraine, j'allais y venir. Avec
qui n'est pas à l'intérieur de l'Europe.
Poulets, oui, mais géographiquement, pardon, exactement. Tu as raison de préciser. Alors, on peut prendre l'Espagne, hein, qui n'a pas les mêmes normes que nous sur les fruits.
Attends, vas-y.
Non, mais.
Les légumes.
Pas tout à fait.
Bah non, pas tout à fait. Bah non.
Mais non. Si, il y a des pesticides qui sont autorisés en Espagne qui sont
parce que la France interdit elle-même de sa propre décision sur son propre territoire
ce qu'on dit.
Des produits que
la France est en avance.
On est d'accord.
Bah, oui, mais c'est ça c'est
bien ce que je dis.
Il faut déjà que la une balle dans le pied, c'est pas de la faute de l'Europe.
Il faut déjà que la France et l'Europe se mettent d'accord. La France est en avance et on n'a pas envie qu'elle recule, mais elle recule. Ah bah en retard pourquoi?
Ça dépend du.
Bah non, elle évite des pesticides. On essaie de manger mieux. On essaie de manger mieux et que les poulets ukrainiens. Donc ce matin, j'entendais des producteurs de poulets ukrainiens qui pleuraient dans un reportage au micro d'une radio autre et qui disaient mais on vous comprend pas les Français, on vous comprend pas, nous on est en guerre et vous voulez plus acheter nos poulets et pourtant ils sont faits comme chez vous. Bah non, ils sont pas faits comme chez nous.
C'est la réalité qui nous raconte. Moi actuellement j'ai mon père qui est hospitalisé, tout va bien, c'est rien de grave. Mais hier je suis allé lui rendre visite, j'ai regardé le menu. D'ailleurs je le salue. J'ai regardé le menu de la semaine. Poulet, il y a eu du poulet deux fois dans la semaine. Lituanie, Pologne, origine.
Ah, ils sont dans l'Union européenne. Public.
Oui, certes.
Bah oui,
mais il y a le discours politique qui nous dit il faut absolument qu'on fasse du français consommer et des agriculteurs. Il y a la réalité.
Quel est le deuxième plus gros exportateur de poulet en Europe?
Mais on est d'accord. C'est pour ça qu'il faut tenir un.
Faut bien que les gens nous les achètent aussi.
Mais c'est pour ça qu'il faut tenir un discours de vérité.
Voilà.
Thierry Moreau.
Je suis sur la même ligne que Jérôme. Je pense qu'il y a la politique aérienne qui fait que quand on regarde vraiment ces accords dans le détail, le plus souvent, on est plutôt bénéficiaire. Les agriculteurs français sont plutôt bénéficiaires. C'est ce qu'essaye, mais ils sont inaudibles. C'est ce qu'essaie d'expliquer le gouvernement avec beaucoup de mal, parce qu'ils sont inaudibles.
Apolline Matin, ce matin sur RMC, pour ou contre l'interdiction des fast-foods dans les centres-villes? C'est un débat qu'on a très souvent dans Estelle Midi. Bah, ils l'ont eu également chez Apolline Matin, alors qu'ils s'en plaignent de plus en plus de fast-food dans nos villes. Le maire écologiste de Lyon a décidé de partir en croisade contre ces fast-foods afin de préserver les restaurants et les bistrots traditionnels. Un combat inutile pour Jean-Christophe, auditeur RMC, qui témoignait chez Apolline.
Peut-on arrêter d'interdire? Déjà, la première chose. Parce que aujourd'hui, apparemment, la seule chose qu'on sait faire, c'est interdire. Et ensuite, les questions qui sont à se poser, c'est le pouvoir d'achat, mais Manu en a parlé, le pouvoir d'achat des commerçants. Ils sont plus capables de payer les loyers, il faut avoir les moyens. Il n'y a que des banques, des opticiens, des mutuelles qui peuvent s'installer.
Des chaînes, quoi.
Pas de commerçants, oui.
Et puis il faut pouvoir payer
du consommateur. Ce que je veux dire, un resto aujourd'hui, plus personne n'a les moyens d'y aller.
Il y a aussi des prothèses auditives. Emmanuel Dancourt, c'est est-ce vrai, qu'il faut interdire...
Ah ben, il y en a partout.
Est-ce qu'il faut interdire les fast-foods dans le centre-ville?
La question, c'est est-ce qu'on peut interdire les fast-foods dans le centre-ville? Parce qu'effectivement, il faut déjà pouvoir payer les loyers. Je suis en train de réfléchir à Dijon, mais c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'on est une ville extrêmement gastronomique avec beaucoup, beaucoup de petits restaurants et donc qui sont assez abordables. Mais après, c'est une histoire de mode. Enfin, moi, je vois bien mes gamins, là, 17 ans, les jumeaux, ils passent leur temps dans les fast-foods et même s'ils sont pas au centre-ville, ils iront aux abords des centres-villes. On les empêchera pas, quoi. Ça changera rien. Moi, évidemment, si moi, je parle en tant que moi, je voudrais que tous les fast-foods disparaissent de la surface de la planète, mais ça n'est pas. C'est utopiste, c'est idéaliste, ça n'existe pas.
Mais tu vois, moi je reviens j'étais en Espagne ce week-end, à Séville, quand même une grande ville. Il y a un petit peu de fast-food, mais j'ai pas vu de McDo, j'ai dû voir un Burger King. Il y a pas de kebab. Et je veux dire, il y a beaucoup de restaurants mauvais d'ailleurs, mais traditionnels. Mais il y a très peu de fast-food, donc on doit pouvoir y arriver. En France, on est le deuxième consommateur mondial de fast-food, mais on doit pouvoir réussir avec une volonté municipale aussi, Thierry.
En plus, faut distinguer les chaînes de la street food avec où ce sont des petites enseignes qui font quelquefois du bon et du mauvais d'ailleurs, mais en tout cas on peut être vigilant là-dessus. Moi je pense que de toute façon c'est quelque chose, enfin, éradiquer tous les fast-food de la planète, je vois pas l'intérêt, quoi. Enfin, faut arrêter d'interdire, quoi. Effectivement, il y a des gens qui aiment ça, c'est pas super en termes de malbouffe, c'est sûr,
et de santé
publique.
Si on
en mange tous les jours, on est d'accord. Si les gamins mangent de temps en temps, c'est pas un drame. Voilà, faut un peu de mesure,
de temps en temps, c'est pas là, cette mesure là n'est pas
Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui vont de temps en temps.
Ben oui, mais on peut.
Les centres-villes, ce dont ils ont besoin, c'est des locomotives, d'avoir une raison d'y aller. Si on donne comme seule raison, notamment aux jeunes qui sont ceux qui consomment le plus, d'aller en extérieur sur des zones commerciales, on ne faudra pas se plaindre. C'est une mesure de gauche. Si je veux bien mourir pour les pauvres, mais ne me demandez pas de vivre avec. Donc les pauvres en banlieue, et puis ceux qui ont les moyens d'aller au restaurant en centre-ville. C'est Rosa Luxembourg.
Allez, on termine avec Apolline Matin ce matin sur RMC. Savez-vous draguer sur les applis de rencontre? Toute personne qui est ou a été célibataire a forcément testé au moins une fois une appli de rencontre, mais savoir draguer dessus n'est pas si évident. Alors Charles Magnan nous a donné ce matin quelques conseils.
Ce sont les conseils des utilisateurs de l'application Hinge. On leur a demandé quelles étaient les meilleures phrases d'accroche. D'abord, il faut absolument bannir le salut, ça va. Bien trop banal. En fait, il faut éviter, nous dit-on, les questions fermées, celles qui appellent un simple oui ou non en réponse. C'est comme lors d'un face-à-face, face à Apolline.
C'est vrai que sinon, ça s'arrête vite.
Ça bloque l'interview. À l'inverse, les célibataires ont plébiscité des phrases d'accroche très ouvertes, comme par exemple, au lieu d'aller boire un verre, si on allait plus tôt. Et là, vous laissez les trois petits points. Et vous laissez
la personne répondre.
Laissez un peu de suspense à votre interlocuteur.
Un QCM, quoi.
Autre option, la question. Si tu devais choisir le lieu de notre premier date, lequel serait-il?
Ça, c'est pas mal.
Ah, voilà, là, on a accroché Amélie.
Emmanuel Dancourt,
oui, elle est pour moi celle-là.
Tu es la seule à avoir fréquenté les applis de rencontre sur ce.
Non, Apolline, j'ai chopé sur les applis de rencontre.
Ah, il faut en plus.
Et alors, ça fait 7 ans que ça dure. Et alors, petite astuce en plus. Alors, vraiment, c'est une astuce pour les femmes. Mais vous verrez déjà tous les mecs qui se mettent en photo avec leur voiture. Vous verrez tous les mecs qui se postent torse nu. Déjà, ça enlève du monde.
Bah, ça dépend le torse.
Tous les mecs qui, au bout de deux fois, vous demandent en mariage. J'ai eu un nombre de demandes en mariage.
Mais ça, c'est des copier-coller. Moi.
Hallucinant.
Mais ça, bah bien sûr, mais
merde,
tout le monde sait
cru,
ça.
Moi.
Mais tu croyais que c'était que toi? Les mecs ils font des copier-coller
et le mien il me demande pas en mariage.
Bien sûr, c'est des copier-coller.
Et tu sais que ça, tu le vois honnêtement, les copier-coller, tu le vois. Après moi j'étais sur une appli où il y avait des questions, on devait tous répondre, des questions assez marrantes, on devait tous y répondre, marrantes ou moins marrantes, et tu voyais comment répondait la personne et tu avais déjà une idée de sa personnalité. Donc peut-être choisir déjà bien son appli.
Et toi ça a bien marché parce que
carrément.
Ça fait 7 ans.
Je peux donner des conseils.